Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Oui, bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Bonjour Étienne Klein, notre invité, bienvenue.
Bonjour à tous.
À tous, oui, c'est Mediapolis, l'émission du samedi 10h en direct, réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet, 15e session, saison de Mediapolis, ça commence bien, tiens. Et nous recevons aujourd'hui une des personnes qui est le plus utile d'écouter et de lire par les temps qui courent. Étienne Klein, vous êtes physicien, vous êtes philosophe des sciences, vous êtes vulgarisateur et vous êtes un drôle de physicien, ou plus exactement un physicien drôle. Parce que de temps en temps, vous mettez de la pointe d'humour dans tout ce que vous faites. Vous avez pu votre habilitation à diriger des recherches, qui est un truc très important dans l'université pour pouvoir diriger des thèses, etc., une étape. Vous l'avez appelé « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois », ce qui quand même est un titre original pour un travail scientifique. Après, vous avez créé des colloques d'interrogations fondamentales avec quelques collègues. Les colloques, vous les avez appelés « PIF ». PIF, physique et interrogations fondamentales. Donc, quand même, c'est pour ça que je dis vous êtes drôle. Et là, vous venez de publier « Le goût du vrai » dans la collection Tract, collection de petits livres pas chers du tout et pas trop gros chez Gallimard, que vous avez écrit en 4 jours et 4 nuits, si je ne me trompe pas.
4 jours, je dors la nuit.
Ah oui, vous avez même dormi pendant cette écriture, ben, formidable. Et donc, vous allez nous faire entendre une voix utile par les temps qui courent.
Qui est plein d'humour.
Et plein d'humour, voilà. Ouais. Alors, bon, tous les sujets, il y a des sujets plus politiques que d'autres, sur quand vous n'avez pas envie de parler. Pas grave, Catherine et moi, on adore parler, donc de toute façon, tout ira bien. Et on va commencer par l'ami Canteloup, comme d'habitude.
Selon un sondage IFOP rapporté par Le Figaro, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est le favori des électeurs de droite pour 2022. Bonjour Édouard Philippe.
Oui, bonjour.
Je le disais, vous êtes le favori des électeurs de droite pour 2022. Vous allez vous présenter, alors dites-nous.
Le frère du pro, pas du tout, pardon. Si votre question est-ce que j'y pense en me rasant, la réponse est et non. Hein, bon. Vous en doutez, je ne me rase pas, vous l'avez constaté. Par contre, puisqu'on parle de ma barbe, est-ce que j'y pense en blanchissant? Oui, un petit peu forcément.
Ouais. Mais attention, hein, il va y avoir beaucoup de prétendants à droite. Hein.
Ah, bien sûr, il y a des prétendants à droite.
Bah oui,
ça, c'est sûr. Bruno Retailleau, déjà.
Bah oui, lui, il s'est déclaré intéressé, Bruno Retailleau.
Et oui, et puis c'est pas rien, Bruno Retailleau. 42 ans de vie politique, et oui, quand même, hein, 42 ans, et 42 ans de vie politique, et on ne connaît toujours pas sa tête. C'est pas rien, Bruno Retailleau, c'est pas rien, c'est pas beaucoup non plus. Du coup, c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant, j'ai peut-être ma chance.
C'était ce mardi 1er septembre, lendemain de son retour de vacances, Canteloup sur les antennes d'Europe 1. L'humoriste n'a pas à vocation à faire de la prévision politique. Canteloup est un excellent humoriste, à mon avis pas un très bon prévisionniste, parce que je ne crois pas du tout qu'Édouard Philippe pense à se présenter en 2022. Mais vous, Catherine, j'ai découvert qu'hier, sauf erreur de ma part, Le Figaro annonçait que François Braouin ne serait pas candidat à la présidentielle de 2022. Libération, sauf erreur de ma part, reprend cette prévision à information ce matin. Et ben, les auditeurs fidèles de Mediapolis, eux, ils savent ça depuis le printemps. Parce que Catherine Ney, cher Étienne Klein, a une loi. Alors évidemment, les lois en sciences politiques ne sont pas comme les lois en physique. Hein. Mon maître, le doyen Vedel, disait qu'il était professeur de sciences inexactes. Bon, vous êtes professeur de sciences exactes, c'est un petit plus. Mais on a quand même des lois qui ont tendance à se vérifier. Et la loi, Catherine Ney, sur l'élection présidentielle, je vous l'apprends, c'est qu'un facteur essentiel pour être candidat, et encore plus pour l'emporter, c'est le désir. Et que ce qui manque à François Braouin, c'est le désir. Et en fonction de sa loi, elle a pu nous dire au printemps ce qui va très probablement se confirmer à l'automne.
Vous avez parlé pour moi, oui, c'est vrai. Il faut en avoir le désir depuis longtemps, que ça soit une obsession. Il faut y penser en se rasant. Et il faut être prêt à sacrifier, d'ailleurs, sa vie privée. Et François Braouin, c'est que pour lui, la politique, c'est le malheur. Il a vu ça autour de lui. Et vous savez, il faut pouvoir supporter, dès que vous êtes arrivé, les critiques, les caricatures, les moqueries. Voilà. Donc, il n'en a pas envie. Et puis, il faut se dire, moi, je me sens capable de relever la France, de faire les réformes qui n'ont pas été faites, de convaincre les Français. Je veux dire, voilà, ça demande beaucoup de sûreté de soi, de confiance en soi, de volonté, de dynamisme, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Et après tout, on peut très bien réussir sa vie sans être président de la République.
C'est intéressant, non, monsieur le physicien et philosophe des sciences, de savoir que nous aussi, on a nos
lois. C'est une loi qui n'est pas physique, mais dont je pense qu'elle est probablement exacte, si je puis dire. Mais c'est intéressant qu'il ait été question aussi de Bruno Retailleau. Parce que Édouard Philippe, moi, il m'avait impressionné. Je suis rentré en France le 26 mars. Et le 28 mars, il y a eu une conférence de presse organisée par le Premier ministre, le ministre de la Santé, en compagnie de chercheurs, de professeurs de médecine. Et on sentait d'un côté une espèce de pouvoir intimidé par les chercheurs, et de l'autre côté, une sorte d'humilité compétente des chercheurs eux-mêmes, qui disaient ce qu'ils savaient, mais aussi ce qu'ils ne savaient pas, ce qui est la preuve de leur compétence. Et j'avais trouvé que ça détonnait par rapport à l'ambiance d'avant, où un certain nombre de personnalités politiques, hommes ou femmes, parfois de très haut rang, comme M. Retailleau, écrivaient des tweets qui commençaient par « Je ne suis pas médecin, mais je ». Le « je » est important parce qu'il y avait une certaine dose de narcissisme. Oui. Autrement dit, on dit qu'on n'y connaît rien, donc on admet honnêtement son incompétence. Et ensuite, on explique ce qu'il faut penser, faire, à propos de tel ou tel traitement, alors qu'on n'y connaît rien. Et on l'a dit qu'on n'y connaissait rien. Et cette espèce d'autopromotion de l'inculture me semble quelque chose qu'il faut critiquer et combattre.
D'ailleurs, vous dites dans votre livre, pour mesurer son incompétence, il faut être compétent. L'ignorance rend plus sûr de soi que la compétence.
Ça, c'est pas moi qui ai inventé ce résultat, qui a été le résultat d'enquêtes faites par des psychologues. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Quand on découvre un nouveau problème, et un nouveau virus, c'est un nouveau problème, on se croit immédiatement compétent. Et c'est en travaillant et en se rendant compte de la complexité de ce problème qu'on se rend compte de son incompétence. Autrement dit, pour sentir son incompétence, il faut devenir compétent.
10 minutes d'émission, deux lois déjà. La loi du désir pour être candidat ou président de la République encore plus. Et la loi pour être... il faut être compétent pour connaître son incompétence. Ça part très fort. Et alors, question désir, on va en retrouver dans quelques instants. Un homme politique qui, lui, ne manque pas de désir. Alors, comme il y en a plusieurs, c'est difficile de deviner. Vous allez voir dans deux minutes.
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Dans la politique, au sens étroit et strict du terme, il y a deux événements qui ont dominé cette semaine, un grand et un moyen. Le grand, c'était le plan de relance présenté, le plan de relance de l'économie, ou en tout cas baptisé tel, présenté par le Premier ministre Jean Castex, et puis la nomination de François Bayrou comme commissaire au plan. Alors sur le plan de relance, strictement dit, il y avait deux choses importantes d'un point de vue médiapolitique. Il y avait... Quels seraient les commentaires, les appréciations des, entre guillemets, experts, on parlait tout à l'heure des gens compétents, des économistes. Et là, globalement, les commentaires sont plutôt de façon dominante positifs, avec quelques bémols ici et là, mais c'était assez rare à ce point-là quand même.
Mais parce que le plan, il a été préparé avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, et que ça a pris du temps, et que ce n'est pas sorti
de la cuisse de Jupiter.
Voilà.
Et la seconde chose, c'était la réception par l'opinion. Et là, il y a eu un sondage Odoxa, publié hier, mettant en grosso modo près de 70% d'approbation sur les différentes mesures et sur le plan en lui-même. Donc de ce point de vue, c'était une réussite. Et puis alors, il y a un deuxième événement qui vous a particulièrement passionné, je crois, Catherine Ney, c'est la désignation de François Bayrou pour succéder à Jean Monnet, si je puis dire, avec des décennies de retard.
Oui, mais avec un titre différent, parce que jusqu'ici, quand le plan existait, puis qu'on vient de ressusciter, les commissaires s'appelaient commissaire général. Et donc, François Bayrou, lui, c'est le haut commissaire.
C'est mieux ou c'est moins bien ?
Comment ? Ah ben, en tous les cas, dans son esprit, c'est mieux d'être haut commissaire, puisque c'est commissaire général, ça fait plus plat.
Ouais. Voilà. Puis on n'imagine pas alors, quelqu'un ne met pas commissaire.
Bon, ce qui était très drôle, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire en deux ans, mais on voit bien que le plan du Premier ministre, ben, il se déroule dans le futur. Hein, si on parle du projet,
plan de relance.
Le plan de relance, c'est pas un plan pour... ça va se dérouler sur plusieurs années. Alors, que va pouvoir faire le haut commissaire, le plan, qu'est-ce qu'il peut faire en 2 ans, parce qu'il travaille pour la réélection du président de la République. Hein. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais moi, ce qui m'a semblé extraordinaire, c'est que le Premier ministre l'appelait toujours commissaire général. Lui donnait pas le nom de haut commissaire, voyez. Alors que le haut commissaire, ça a été une invention de Nicolas Sarkozy quand il a nommé Martin Hirsch aux solidarités actives contre la pauvreté, qui avait rang de ministre, enfin, qui assistait au Conseil des ministres, voyez. Mais lui, il a nommé des hauts commissaires, Castex, justement, dans le plan de relance. C'est des hauts commissaires à la pauvreté. Il y en a un dans chaque région, y compris dans les territoires d'outre-mer, pour aider les gens qui
ont des difficultés. La grande demande de Bayrou, c'était de ne pas être rattaché à Matignon, mais d'être rattaché au président de la République. Alors évidemment, on est allé, les journalistes, vous savez, comme ils sont taquins souvent, ils sont allés chercher Jean Castex là-dessus.
Quant à la grande question qui occupe tout le monde, de savoir si M. Bayrou me sera rattaché, pas rattaché, rattaché au président de la République, qui est quand même une question quand même majeure après tous les sujets de plan de relance que nous venons d'évoquer. Quand on parle d'emploi, de gens qui risquent de le perdre, etc., de territoires qui pourront être impactés, je dirais simplement que si par hasard ces questions vous tracasse, vous inquiète, moi, rassurez-vous, elle ne m'empêche absolument pas de dormir. Je vous remercie.
J'adore les déclarations comme ça où ça veut dire le contraire, en fait. Parce que
ça ne veut pas dire le contraire. Moi, je trouve que c'est d'une désinvolture vis-à-vis de François Bayrou. Il s'en fout, quoi. Je veux dire, il sait très bien que c'est une nomination politique. D'ailleurs, qu'il a été nommé sur sa proposition, c'est le président qui voulait faire cette fleur à François Bayrou. Voilà.
Ouais. Bon. Ça, j'imagine, ça
moi, j'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est pour dire que l'expression haut commissaire n'est pas une invention récente.
Non.
Moi, je travaille au commissariat à l'énergie atomique, créé en 1945, et nous avons à la tête de cet organisme un administrateur général et un haut commissaire à l'énergie atomique.
Et lequel des deux est le plus important, alors ?
C'est une sorte de... Ils ont des rôles complètement différents, mais ça a d'ailleurs changé un peu au cours de l'histoire. Le premier haut commissaire, c'était Jules Le Curie.
Ah oui, carrément. Oui, oui.
Mais les commissaires au plan s'appelaient commissaire général.
Et oui, et ils ne s'appelaient pas haut commissaire et non. Ils avaient un poids et une importance
considérable.
Le CEA a fait école.
Oui, alors, en fait, le vrai problème, c'est quelle est la nature et la place d'un plan aujourd'hui. C'est ça la question. Parce que c'est vrai que Catherine Ney avait quand même fondamentalement raison. Il y a quelque chose de bizarre quand on vous présente un plan de relance sur plusieurs années, d'avoir à côté nommé quelqu'un commissaire au plan. Parce que. Sauf si c'était pour l'exécution, mais ce n'est pas pour l'exécution, puisque ça, c'est les ministres qui en sont chargés. Enfin, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, il y a eu un autre, alors au sens politique plus large du terme, il y a eu un autre fait qui a dominé cette semaine, mais qui ne relève pas des faits divers, mais de la politique, c'est l'ouverture du procès d'une partie des complices des attentats contre Charlie Hebdo et des attentats de l'hypercachère et de la policière assassinée. Et il y a sur ce sujet-là une sorte de discussion, débat ou confrontation sur le fait que Charlie a décidé de publier à nouveau à la une les caricatures qui avaient été invoquées comme motif de cet attentat. On y vient dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis, Olivier Duhamel.
Je me disais justement ça, c'est fou.
Pour l'ouverture, au moment de l'ouverture du procès de complices des attentats terrifiants de janvier 2015, un certain nombre d'interrogations étaient posées sur un recul de la liberté, sur une intolérance de plus en plus grande. Mais il y a au moins un signe ou deux qui ont été positifs. D'abord, le numéro spécial de Charlie Hebdo, tout ça pour ça, a été épuisé en moins de 48 heures à 200 000 exemplaires et retiré en urgence. Premier signe positif. Deuxièmement, dans une enquête IFOP, le pourcentage de personnes considérant que Charlie avait raison de publier ses caricatures s'est élevé à 59%, ce qui fait 21 points de plus que lorsqu'il l'avait fait en 2006. Donc dans l'opinion sur ce plan-là, on ne peut pas dire que l'attachement à la liberté, la liberté jusqu'au droit de blasphémer, a dit Emmanuel Macron au Panthéon hier, reculé au contraire. En revanche, on peut noter aussi dans la même enquête, ce qui est là pour le coup plus inquiétant, que 21% des 15-24 ans sont indifférents ou ne condamnent pas les attentats et que le chiffre monte à 26% chez les 18 ou même les 15-24 ans, pardon, et monte à 26% chez les jeunes musulmans. Donc il y a quand même entre un cinquième et un quart des jeunes français qui, alors qui soit disent explicitement qu'ils ne condamnent pas, là c'est plutôt genre 10%, soit qui disent qu'ils sont indifférents. Alors là-dessus, il y en a peut-être aussi qui ne savent tout simplement pas de quoi on parle, parce que dans le degré d'inculture politique ou historique, même récente, c'est possible, mais je pense que ce n'est pas très réjouissant. Et puis il y a, et j'en termine sur le positif, des imams, particulièrement un imam, comme l'imam de Bordeaux, qui eux tiennent des propos apaisants.
La caricature fait partie de notre culture française, c'est apprendre ou à laisser, c'est ça qui fait notre démocratie. Et on ne répond pas aux caricatures par des balles et du coup de poing, mais par la pensée et la caricature. Je pense que le comique, l'humour, la caricature pacifient les relations entre des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions. Moi-même, j'appelle à l'indifférence, c'est-à-dire les musulmans ne vont pas applaudir les caricatures, ils ne doivent pas non plus être excités et passer à des actes agressifs.
C'était donc Tarek Obrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux, invité à 6h40 de Sébastien Krebs sur Europe 1 ce mercredi. Étienne Klein, j'imagine que vous êtes exactement dans cette ligne de
absolument,
tolérance.
Je pense que la provocation, alors parler de provocation à propos de la une de Charlie, ça me paraît fort de café, puisque ce sont des gens qui ont été décimés. Enfin, décimés, ça veut dire 1/10. On en tue 1/10. Eux, c'est beaucoup plus qu'un sur 10. Et donc, parler de provocation de leur part, ça me paraît être un comble. Et d'autre part, je pense que la contradiction, le paradoxe, la provocation font partie de la vie de l'esprit. Et aujourd'hui, on assiste en certains endroits, notamment aux États-Unis, à ce qu'on appelle une épidémie des sensibilités. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'offenser quiconque, de le contredire dans ses convictions, si elles sont sincères. Ça veut dire que la solution, si on tolère cette situation, c'est le communautarisme. Chacun se met dans un groupe de gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, de sorte que jamais il ne sera mis en contradiction avec ce qu'il pense ou avec ce qu'il croit. Or, je pense que le combustible de la pensée, d'une façon générale, c'est le paradoxe, c'est la contradiction. Penser, c'est d'abord penser contre soi. C'est pas penser contre les autres, c'est penser contre ses propres idées, en voyant si elles sont capables de résister à des choses qui viennent les contredire. Et donc, c'est pas agréable d'être offensé, c'est pas agréable de sentir que ce à quoi on croit est blasphémé, mais ça fait partie de l'idée qu'il n'y a qu'une seule communauté, qui est la communauté nationale. Il n'y en a pas d'autre.
Catherine Ney, vous avez suivi
peu. Oui, le droit de... L'esprit Charlie s'est refusé de renoncer à nos libertés, a dit Richard Malka, l'avocat du journal. Non, c'est vrai. Moi, je pense que le message aurait... Puisque le droit de blasphémer fait partie de notre culture très française, ça va avec la laïcité. Je pense que le message aurait été plus fort si tous les journaux, s'il y avait une espèce de conjonction de tous les journaux qui sont d'accord avec ça pour que Charlie Hebdo le fasse, avaient eux-mêmes repris en couverture. Comme ça, on était tous d'accord. C'était toute la presse. Moi, je pense que c'est Charlie Hebdo qui réitère et qui fait une couverture et qui met tout ça pour ça. En effet, tout ça pour ça, pour autant de morts pour ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de folie. Et quand je vois les réactions avec, au Pakistan, des manifestations dans la rue, qui appelle à la vengeance, que les Égyptiens, les Irakiens, les Égyptiens, les Iraniens, je veux dire, toutes les mosquées d'Iran disent que c'est un acte criminel. Eh bien, je veux dire, aujourd'hui, c'est bien sûr, Charlie Hebdo continue, on est très content, mais il faut savoir qu'on est dans un lieu caché, avec le directeur RIS qui est sous protection policière, et je veux dire, et ça peut recommencer aussi. Donc, est-ce que c'est très bien d'affirmer sa bravoure et tout ça, mais avec des risques qui peuvent recommencer, vous voyez. Moi, et donc, moi, j'ai quand même des réserves, vous voyez.
Il y a une preuve, en tout cas, preuve du fait qu'ils ne sont pas dans la provocation systématique, c'est que depuis 2006, ils n'avaient pas republié les caricatures et ils avaient dit qu'ils ne les republieraient pas, sauf si des événements le justifiaient. Et là, ils les ont publiés parce qu'il y a le procès. Ils ne les ont pas publiés pour faire un gna-gna.
Si je peux dire quelque chose, il me semble qu'il en va de la laïcité comme pour le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ils ont manifesté là une preuve d'amour adressée à la laïcité. Et cette liberté, si on ne l'exerce pas d'une façon ou d'une autre, elle n'existe plus.
Oui, mais ça, vous voyez, c'est très compréhensible pour des Français, on est très contents, mais c'est incompréhensible pour tous ces islamistes furieux et qui parlent d'actes criminels, vous voyez. Donc...
Alors, pendant ce temps-là, il y a un autre débat qui n'a pas arrêté de faire du buzz média politique pendant la semaine, où on peut trouver que c'est un peu ridicule, et particulier au monde politicien franco-français, que de s'étriper sur des mots, ou au contraire, que comme les mots veulent dire des choses et on produit des effets, c'est très important. Il y a un mot qui a enflammé la scène médiapolitique. Allez, vous avez 2 minutes 30 pour deviner laquelle.
Europe 1, Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bon, bah, le mot à trouver, vous l'avez trouvé évidemment. Et Capucine Patouillet, vous nous a préparé un montage. Médiapolis, c'est aussi entendre des sons de la semaine. Et alors, quand on les entend sur le même sujet, voilà ce que ça donne.
La France, c'est pas un coupe-gorge. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme.
Je pense qu'on a un désaccord sur les mots. Bah, chacun l'a constaté hier. Chacun son expérience. Je suis plus jeune qu'Éric Dupond-Moretti. Il a une expérience plus grande que la mienne. C'est un très grand avocat. Et il a une vision de la société qui est due dans son expérience. Moi, j'ai la mienne. Donc, moi, ce que je pense, c'est que mal nommer les choses, c'est de rajouter du malheur au monde, comme disait Camus.
Nous parlons d'un sujet grave, qui est l'insécurité. La question n'est pas les mots qu'on emploie pour qualifier le phénomène, mais les actions que l'on met et que l'on va mettre en place pour y faire face. Donc, fermez le banc, il n'y a aucune polémique.
Moi, au-delà des mots, je sais que les Françaises et les Français attendent des actes. On regarde des sceaux. Je voudrais lui dire très directement que la sécurité et l'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité.
Et les propos du ministre de la Justice sont accablants lorsque l'on sait qu'il y a aujourd'hui une violence gratuite qui est commise toutes les 44 secondes en France. Eh bien, oui, il y a un phénomène d'ensauvagement. Et oui, face à cela, monsieur Dupond-Moretti est le représentant du laxisme judiciaire.
La délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis 10 ans. La plupart de nos concitoyens sont convaincus qu'il y a une augmentation massive de la délinquance des mineurs. C'est pas vrai. Donc moi, j'entends rétablir un certain nombre de vérités.
Vous venez d'entendre par ordre d'entrée en scène Éric Dupond-Moretti, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 mardi. Gérard Darmanin, invité des 4 vérités de France de mercredi. Jean Castex en déplacement à Châteauroux mardi. Gérard Larcher, le président du Sénat, invité de Sonia Mabrouk mercredi. Et Jordan Bardella, invité de France Info mardi, le pénis. Et enfin, Éric Dupond-Moretti, qui, après avoir eu le premier haut, a eu le dernier. Enfin, pas tout à fait le dernier, parce que le dernier, ça va être Étienne Klein et Catherine Ney. Monsieur Klein.
Oui, alors, si je peux écoutez, moi, je ne veux pas céder à l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire au fait de parler au-delà de ce qu'on sait,
parlez de ce mot, attendez, alors là, excusez-moi, c'est très important pour nos auditeurs, j'adore ce mot, je suis absolument furibard de ne pas l'avoir mis dans les mots du coronavirus que j'ai écrit avec Bigorgne, Laurent, l'ultra-crépidarisme, pour ceux, et en plus, j'en ai parlé ici pendant le Covid, mais pour ceux qui auraient oublié, soyons très précis, sutor ne supra, crépidam, sutor, le cordonnier, ne supra, pas au-dessus, crépidam, de la sandale. Parce que Pline l'Ancien, c'est un historien, un philosophe qui est d'ailleurs mort lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi en août 79. D'accord.
Mais enfin, posez votre question.
Non, c'est pas une question, je veux expliquer le crépidarisme, l'ultra-crépidarisme, c'est très important. C'est un cordonnier qui va voir un peintre et qui lui dit « Mais la sandale, vous l'avez pas fait comme il faut, c'est pas une sandale sur votre tableau. » Et le peintre dit « Ah bon, bah expliquez-moi. » Et le peintre refait sa sandale. Et le cordonnier retourne voir le peintre après, tout content d'avoir rétabli la sandale. Il lui dit « Ah bah et le vase là, c'est pas comme il faut, et les fleurs, c'est pas comme il faut, et je sais pas quoi, c'est pas comme il faut. » Et là le peintre lui dit « Hé, cordonnier, pas au-dessus de la sandale. » Donc d'où le mot
c'est crépidam, pas très démocratique.
Ultra-crépidarisme. Moi, mon oncle, professeur de médecine, disait « Il faut pas péter plus haut que son luth. » C'est faire croire qu'on est expert alors qu'on ne l'est pas. Ça valait le coup d'expliquer, excusez-moi Catherine. Et comme vous l'avez prononcé...
Non mais alors, ce thème en sauvagement, une première remarque, c'est que les études que j'ai pu consulter montrent qu'il n'y a pas d'augmentation, il y a une stabilité de la délinquance depuis 15 ans en France. Alors évidemment, elle peut changer de forme, en tout cas d'intensité, non, pour autant qu'on puisse le savoir. Deuxièmement, plus on montre fréquemment un phénomène, plus nous avons tendance à penser que ce phénomène augmente. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre le réel et la représentation qu'on en donne. Ensuite, il y a la façon de nommer les choses. En sauvagement, vous voyez bien que ça, il y a à la fois l'idée de sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'un sauvage? Alors, étymologiquement, ça vient de Salbaticus, Un sauvage, c'est quelqu'un qui vit dans les bois. Et puis le sens a évolué. On est allé avec le bon sauvage chez Rousseau et Montaigne. Et puis c'est devenu maintenant l'ennemi de la société. Et le sauvage, c'est un mot masque qui veut désigner tous ceux qui s'opposent à la société. Mais j'ai l'impression que dans ce qu'on a entendu là, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent avec l'anagramme de l'expression « le droit à la sécurité ». Le droit à la sécurité a pour anagramme la crise de l'autorité. Oui. Comme par hasard.
Changez les lettres. Donc droit à la sécurité.
Le droit à la sécurité, c'est exactement les mêmes lettres, dans un autre ordre que la crise de l'autorité. Ouais. Et j'entends des gens là qui jouent sur cet anagramme, qui est une pure coïncidence, pour essayer de nous faire croire qu'un peu plus d'autorité résoudrait le problème de ce fameux sentiment d'insécurité. Et on parle de violence gratuite, ça veut dire qu'il y a des violences payantes.
D'accord, mais d'accord aussi sur la visibilité. Mais quand même, puisque vous évoquez cet anagramme, il y a quand même, on a l'impression, alors, et peut-être qu'il y a une réalité derrière, qu'il y a des délinquances d'un type nouveau. C'est-à-dire qu'on s'en prend, quand on va cogner une aide-soignante, on ne faisait pas ça. Quand on va agresser plus systématiquement les maires, on ne faisait pas ça. Quand on va attaquer les permanences des députés, on ne faisait pas ça. Or, figures qu'on évoque là, ce sont des figures, les policiers, ce sont des figures d'autorité. Donc il y a quand même bien un changement de nature, s'il n'y a pas un changement de quantité.
Il y a un changement de la forme que prend cette délinquance, cette violence. Et c'est ça qui choque, parce que la rapidité, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, de cette évolution est... très grand. Oui,
mais moi, je retiens, la philosophe Thérèse Elpech avait publié en 2005 chez Grasset un titre qui s'appelait « L'ensauvagement ». C'était le retour de la barbarie au XXIe siècle, en se demandant quelle nouvelle horreur le monde contemporain allait produire.
Oui, mais moi, elle parlait plutôt
des géopolitiques,
des armes de destruction massive.
Oui, oui, etc. D'accord. Mais quand même, là, il y a des nouvelles horreurs que l'on n'a jamais vues. Quoique des jeunes, foncent sur un policier avec leur voiture, on n'avait jamais vu ça. Je veux dire, qu'un conducteur de bus soit roué de coups et tué parce qu'il ne veut pas porter son masque, c'est une forme de barbarie qui est quand même nouvelle. Et aujourd'hui, cette chose incroyable que des gens attaquent des chevaux à travers toute la France pour les tuer, les mutiler, si ce n'est pas de l'ensauvagement et de la barbarie, je veux dire, ça fait très peur. Demander aux agriculteurs qui, non seulement leur récolte pillée tous les ans, voient leur matériel agricole volé. Là, maintenant, je veux dire, les chevaux sont tués. Non, mais il se passe des choses qu'on n'a jamais vues. Et quand on dit que le sentiment de sécurité, les gens disent que c'est un ensauvagement. Vous voyez, alors, il ne faut pas le dire non plus, parce que Marine Le Pen l'a dit il y a 5 ans. C'est un mot qui est banni aussi par toute une gauche, parce qu'il ne faut pas le dire. Mais ça correspond aussi à des actes qu'on peut qualifier de sauvage.
Mais il y a des formes de violence qui existaient dans le passé qui n'existent plus.
Bon, il y a un mot, en tout cas, que les politiques n'utilisent jamais, et les scientifiques très peu, mais que Étienne Klein et moi aimons beaucoup, c'est ultra-crépidarisme. Et à propos d'ultra-crépidarisme, vous allez voir qu'il y en a même chez les savants. Allez, dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Ultra-crépidarisme, se présenter comme expert alors qu'on ne l'est pas, croire qu'on est compétent alors qu'on est incompétent. Eh bien, je ne suis pas médecin, comme l'immense majorité de ceux qui nous écoutent, donc j'écoute les médecins, les scientifiques, pour savoir, par exemple, une chose simple, est-ce qu'il faut que je porte le masque à l'extérieur parce que c'est protecteur ou pas ? Écoutez Philippe Juvin, professeur de médecine. Européen mardi.
C'est plutôt un principe de précaution qu'autre chose. Ce qui est certain, c'est que c'est probablement utile dans les zones où il y a beaucoup de monde, où il y a une densité. C'est vrai que quand je suis tout seul dans ma rue, c'est probablement totalement inutile. Mais donc, on a besoin de lisibilité. Moi, je pense que l'avantage du masque, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Ce n'est pas très contraignant. C'est un peu embêtant, mettre un masque. Je ne cache pas que tout le monde râle pour mettre un masque. Mais il y a un tel bénéfice, un ratio entre l'ennui de porter un masque et le bénéfice d'arrêter la maladie, qu'il faut le porter par principe de précaution au moins.
Donc c'est utile, sauf quand il n'y a personne. Philippe Juvin, professeur de médecine, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, excusé du peu, mardi sur Europe 1. Alors j'écoute Jimmy Mohamed, notre médecin expert santé d'Europe 1, chez Mathieu Béliard, vendredi 28 août.
C'est compliqué pour moi de vous le dire, mais c'est inutile de porter un masque et cette mesure ne sert à pas grand-chose. Cette décision n'est fondée sur aucune recommandation scientifique. Aucun cluster au monde n'a été retrouvé dans un espace en plein air. Les foyers concernent les espaces fermés comme les bars et restaurants, les entreprises, les écoles, les transports en commun. Là, la question semble réglée.
Je suis perdu, Étienne.
Ben vous avez de quoi. Mais on va prendre une analogie dont je ne sais pas si elle est pertinente. Quand le feu passe au rouge, vous arrivez en voiture, vous arrêtez. Même s'il n'y a pas de voiture qui vienne de la droite, ni de la gauche, ni en face. Donc même si ça ne sert à rien de s'arrêter au feu rouge, vous vous arrêtez au feu rouge.
Oui, mais quand je suis piéton, si c'est rouge pour les piétons, mais il n'y a aucune voiture à un kilomètre à la ronde, je traverse.
Parce que vous êtes français, comme moi.
Oui, les Allemands
s'arrêtent. Si vous le faites en Allemagne ou en Suisse, ils viennent vous arrêter, justement. Et donc, moi, je ne comprends pas les polémiques. C'est-à-dire, on sait que les masques ont une efficacité. Cette efficacité n'est pas absolue, mais elle est certaine. Après, il y a toute la question... comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on le manipule? Est-ce qu'on le met dans sa poche? Est-ce qu'on le tord? C'est un peu comme pour les tests. Au début de l'épidémie, les gens disent il faut des tests. Mais il ne suffit pas d'avoir des tests. Il faut être sûr qu'ils sont fiables, qu'ils fonctionnent bien, qu'ils ne créent pas, si le résultat est positif, trop de faux positifs. C'est-à-dire des gens qui ne sont même pas malades, mais qui sont positifs au test. En fait, les questions sont toujours plus compliquées que ce qu'on croit. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit de comment utiliser cet outil de prévention, qui n'est pas le seul, qui fait partie d'un arsenal, dont on connaît à peu près l'efficacité, elle est positive.
Très bien. Et alors du coup, je voudrais qu'on passe, qu'on élargisse le sujet et qu'on passe à la question centrale du complotisme et du moyen d'y remédier, puisque dans le fond, c'est un des mots que vous dénoncez dans votre livre au joli titre « Le goût du vrai », c'est ça ?
Il n'y a pas le mot complotisme dedans.
Non, il n'y a pas le mot. Non. Alors écoutez, vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas le mot complotisme dedans dans 2 minutes, parce qu'il faut qu'on fasse une dernière pause, malheureusement, enfin...
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Étienne Klein, notre invité physicien, philosophe des sciences, vulgarisateur, auteur de Le goût du vrai chez Gallimard, plein de sérieux et plein d'humour à la fois. Et vous n'avez pas utilisé une seule fois, nous disiez-vous il y a quelques minutes, le mot complotisme dans ce livre tract Le goût du vrai. Pourquoi ?
Parce qu'il fait 58 pages, j'avais pas la place, mais j'aurais pu mettre le mot. Le complotisme, c'est une commodité de l'intelligence, c'est-à-dire que tout fait sens dans le même sens. On singe la pensée méthodique, mais on est imperméable à la contradiction. Et donc ça donne du sens à ce qui n'en a pas. Un virus, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de finalité. Le virus n'est pas venu nous donner des leçons. Il n'a pas de projet, si ce n'est celui de trouver des autres pour se reproduire. Mais il n'a pas de leçons à nous donner. Et donc, quand quelque chose comme ça est complètement contingent, on veut lui donner du sens en l'insérant dans une trame narrative avec une seule cause. C'est ça qu'on appelle le complotisme. Comment lutter contre ? Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Ils ont beaucoup d'arguments. Nous, on sait qu'elle est ronde. Mais si on ne sait pas dire comment on a su qu'elle était ronde, autrement dit, si on ne sait pas dire comment dans l'histoire de la pensée, qui est très ancienne en l'occurrence, on a pu déterminer que la Terre n'est pas plate mais qu'elle est ronde, grâce notamment aux éclipses lunaires, si on ne sait pas expliquer tout ça, devant un platiste qui fourmille d'arguments, on aura l'impression d'être perdant, parce qu'il saura mieux expliquer ses convictions que nous, nos connaissances.
Et donc on cherche absolument à donner du sens à un virus qui par définition n'en a pas, à part de se reproduire, venez de nous expliquer Étienne Klein, il y a des cas de complotisme qui donnent des sens insensés, non, Catherine?
Oui, d'ailleurs, les anti-masques disaient qu'Emmanuel Macron est manipulé par le milliardaire George Soros ou encore par l'OMS, et Big Pharma, qui fait référence à cette théorie du complot, selon laquelle les compagnies pharmaceutiques et les médecins agiraient contre le bien commun, mais seraient payés pour ça. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui disent porter des masques sont payés par les... industriels.
C'est joyeux et donc il faut lutter contre. Pendant ce temps-là, il se passe autre chose outre-Atlantique, une phase nouvelle dans la campagne présidentielle américaine. Et Alice Baudry, qui suit les médias internationaux pour nous, Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne, a repéré un article publié dans Real Clear Politics, qui est un excellent site pour suivre la politique américaine, mais qui explique que les émeutes et les fusillades aux États-Unis ont soulevé des inquiétudes dans certains milieux démocrates. Oui, Trump pourrait être réélu, c'est la conclusion de cet article. Ce qui est intéressant, c'est que cet article nous rappelle que la plupart des analyses électorales que vous lirez sur l'élection présidentielle américaine, du moins les enquêtes, les sondages, les analyses quantitatives, reposent sur une vieille théorie que les politologues appellent le vote rétrospectif. L'idée est assez simple. Lorsque les électeurs se rendent dans l'isoloir, ils ne font pas un choix entre deux candidats, ils portent principalement un jugement sur les performance du candidat sortant. C'est l'équivalent en sciences politiques de la célèbre question de Ronald Reagan, êtes-vous mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? Ainsi, lorsqu'on modélise une élection, on examine généralement des choses comme l'état de l'économie ou peut-être comment se déroulent les guerres à l'étranger, et si les choses ont l'air de bien se passer, le parti au pouvoir se portera bien. Si les choses vont mal, le parti au pouvoir ne se portera pas a priori si bien que ça. Cette théorie est, selon cet article, solide. Mais, il y a aussi la question des émeutes, cette fois-ci. Et c'est unique. Et c'est ce qui est potentiellement très dangereux pour Biden. L'argument républicain devient rapidement « Les personnes qui causent des émeutes de Portland, Seattle, Kenosha, ne sont pas des partisans de Trump. Donc, Trump sera plus susceptible de les arrêter. » C'est peut-être pas juste. La plupart des partisans de l'Antifa ne se soucient pas non plus de Biden. Mais pour une fois, ce pourrait être une erreur de supposer que les électeurs blâmeront automatiquement le titulaire. Fin de la démonstration que je trouve absolument passionnante. Et il y avait un exemple dans l'élection américaine, parce que vous savez peut-être que j'ai bossé le sujet avec la série Mr. President, c'est l'élection de Truman. Parce que Truman, on disait qu'il allait perdre dans des états décisifs à cause des fermiers. Parce qu'il y avait une grosse dépression agricole et que les fermiers s'appauvrissaient. Et les fermiers, il est allé y faire campagne et les fermiers ont voté pour lui. Et pourquoi ils ont voté pour lui? Parce qu'il leur a dit qu'avec le programme républicain, les choses seraient bien pires pour eux. Et donc, alors qu'il était le sortant, il a su retourner l'argument. Et c'est ce que Trump est en train d'essayer de faire avec les violences. Et en disant, bah, vous voyez, c'est pas moi le président des États-Unis le responsable. C'est tous ces salopards de démocrates, ces socialistes marxistes merdeux. Ils parlent comme ça, Trump est pire encore. Et avec eux, vous aurez ça toute la journée. Et c'est pour ça que je pense que l'élection présidentielle américaine est loin d'être jouée pour Biden, comme on le lit ou l'écrit trop souvent.
Donc vous sous-entendez que les positions qu'il a prises sur le Covid, en demandant aux gens de se... comme le dit Étienne Klein dans son livre, en rappelant qu'il doit de se soigner avec de l'eau de Javel, ça ne va pas être, ça va pas lui porter préjudice.
Disons, ce que je soutiens, Catherine, c'est que normalement, entre le Covid et la crise économique, il devrait perdre l'élection, mais qu'à cause des violences, il travaille ça à mort en plus, il pourrait la gagner.
Autrement dit, créer du désordre et ensuite réclamer le retour de l'ordre, c'est une ficelle qui est aussi classique que grosse, c'est même une super corde. Et vous êtes en train de me dire qu'elle fonctionne encore.
Eh ben,
qu'elle pourrait fonctionner.
Ce que je constate, c'est que pour un professeur de physique qui est censé pas connaître grand-chose à la politique, et c'est un excellent professeur de sciences politiques, notre invité.
Moi, j'ai lu les tweets, certains tweets de Trump, ils sont très nombreux, je ne lis pas tout, mais quand il parle de son instinct du virus, il connaît mieux le virus que les chercheurs qui, eux, cherchent, hésitent, se trompent, reviennent, établissent des protocoles, essaient de le comprendre 18 heures par jour, lui, il a un instinct qui lui fait penser que la recherche est un truc inutile et chronophage.
C'est l'empereur des ultra-crépidaristes.
Ah, c'est le champion olympique.
Alors, pour terminer, comme d'habitude, une chanson. Cette fois-ci, Jean-Luc Arblade nous a choisi la chanson « Un dimanche de janvier » que Johnny Hallyday a chantée en 2016, le 11 janvier 2016, dans la cérémonie de commémoration de tous les attentats de l'année 2015 qui avaient été organisés par la ville de Paris, place de la République, chanson composée par chanson composée par Jeanne Cherbal, non, écrite par Jeanne Cherbal, et composée par Yo Delis, Johnny Hallyday, un dimanche de janvier.
De regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier. Pour garder en mémoire nos héros d'encre et de papier, nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence, au milieu de la foule immense. Et le vent à notre place chantait sans fin sur la place.
Un dimanche de janvier chanté par Johnny Hallyday en hommage aux victimes des attentats, cette chanson écrite par Jeanne Chéral. Merci à Jean-Luc Arblat de nous l'avoir choisi et d'avoir réalisé l'émission, à Capucine Patouillet de l'avoir préparé, évidemment à Catherine Ney de l'animer si élégamment, et à notre invité Étienne Klein qui a su nous donner à réfléchir avec beaucoup de passion. À la semaine prochaine.